Bonsoir, merci. Merci à vous de cette invitation. Je suis très honoré. Et je reviens de Bamako où j'ai donné une conférence inaugurale dans le cadre de la 13e rentrée littéraire du Mali. C'était vraiment un grand moment de poésie, un grand moment de chaleur humaine. Et heureusement, il n'y a pas vraiment de décalage entre Bamako et Paris. Donc, ça me permet d'être debout pour discuter avec vous. Et je pense qu'on va parler de poésie, on va parler de littérature. C'est pas vraiment une conférence. Moi, j'aimerais bien discuter avec vous, apprendre des choses de vous. Et moi, je veux juste partager ma modeste expérience de lecteur et d'auteur. Je suis né en Haïti, comme l'a dit Lucienne. J'ai grandi là-bas, j'ai travaillé là-bas. C'est un pays qui m'a tout donné, Haïti, par sa force, par son histoire, par sa mémoire et par sa présence au monde et par la manière dont ce pays inscrit sa présence au monde et à l'histoire de l'humanité. Alors moi, je le dis toujours, je suis essentiellement poète parce que Haïti, c'est un pays de poètes. On a une très grande tradition de poésie. L'acte de l'indépendance signé le 1er janvier 1804 par Bois-Antonnerre, c'est un poème. Donc l'acte de l'indépendance même, c'est un poème. Et 8 ans, quelques 8 années après l'indépendance d'Haïti, et un grand poète, un très grand poète est né. Et ensuite, on a eu de très grands poètes. C'est un pays qui a quand même donné de grands poètes, de grands écrivains. Alors la question, pourquoi une petite île de 27 750 km² donne autant d'écrivains? Alors moi, je n'ai pas la réponse. C'est peut-être parce que quand on a que l'imaginaire, ben, on y va. Et donc, bien sûr, moi j'ai commencé par la poésie parce que je suis un modeste héritier de cette longue tradition de poésie, de cette grande littérature d'expression créole et française. Et le lecteur haïtien, il est un peu chiant parce que il veut du travail sur la langue. Il veut de la langue, il veut pas que des histoires. Le lecteur haïtien, pour lui, un romancier, c'est un raconteur d'histoire. Et Haïti, c'est un pays où l'histoire se déroule tous les jours sous nos yeux. Il y a des histoires partout. Il y a des histoires à chaque coin de rue. Chaque coin de rue est un roman fleuve. Et il lui faut du travail sur la langue. Il lui faut du dépassement. Il lui faut du sommet. Et donc, du coup, c'était tout à fait naturel pour moi de commencer par la poésie. Et comme c'était tout à fait naturel pour René de Pestre de commencer par la poésie et pour et tant d'autres de commencer par la poésie, et même chez les grands romanciers haïtiens, et comme Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain, qui lui-même a commencé par la poésie, et Jean-Claude Charles, qui a commencé par la poésie. Donc on a toute une génération de grands romanciers qui ont commencé par la poésie parce que c'est justement le travail sur la langue. Et c'est le nouveau langage que ces humains-là inventent pour justement et raccourcir le chemin entre le moi et l'autre, entre l'autre et de l'autre au nous et du nous à l'inconnu. Et c'est vraiment le chemin le plus court entre les langages, entre les humains, entre l'imaginaire. Donc, bref, c'était assez naturel pour moi de commencer à publier de la poésie. J'ai publié mon premier recueil en 2007 qui s'appelle La douleur de l'étreinte. Alors moi, j'ai pas tout parce que je suis pas vraiment chez moi. Je suis arrivé de Bamako et j'ai demandé à un ami de me passer son appartement pour pouvoir faire cette rencontre parce que j'aurais pas eu le temps de faire le trajet pour entrer. Mais j'ai pu ça avec moi, le recueil dont on va parler. Et donc j'ai publié mon premier recueil en 2007. Ça s'appelle La douleur de l'étreinte. Et en 2008, j'ai publié Sans ailleurs. En 2009, À l'aube des traversées et autres poèmes. Donc, en tout, j'ai publié 9 recueils de poèmes, 8 en français et 1 en français. Et en prochain, qui sort bientôt, peut-être janvier 2022. Et en 2010, j'ai publié un roman qui n'est pas vraiment un roman, Les Immortels. Les gens, ils disent que c'est un roman. Alors, et le truc, c'est que quand on écrit un livre, si ça prend pas la forme d'un poème, c'est-à-dire d'une strophe, ou de quelque chose qui s'apparenterait à un poème, on a tendance à dire que c'est un récit, c'est une nouvelle, c'est un roman. Donc, quand j'ai écrit Les Immortels, pour moi, et c'était clair que c'était une sorte de mi-chemin, un entre-deux entre la poésie et le roman. C'est-à-dire, la démarche, c'était d'arriver à mettre la poésie telle qu'on la connaît, de la poésie pure et dure au service de la prose, au service du roman. Et donc, dans ce livre, qui n'a pas vraiment de chapitre, c'est des petits blocs de récits avec une toute petite histoire. Et ça se présente comme des blocs de phrases et tout. Et comme il y a une petite histoire, mon éditeur a décidé de mettre Romain sur la couverture et j'ai pas dit non parce que je sais que aujourd'hui, on a tendance à privilégier le genre romanesque et de mettre à l'index la poésie. Et donc, j'ai publié ce premier récit qui est pour moi un recueil de non-dits parce que c'est un récit qui parle de... Enfin, ça ne parle pas vraiment du tremblement de terre, mais qui a pour toile de fond le tremblement de terre. Le tremblement de terre est là en filigrane, mais le plus important, c'est cette petite histoire justement qui raconte la vie de ces femmes sur la Grand Rue et avant le tremblement de terre et leur mort après le tremblement de terre. Qui étaient ces femmes? C'était ces prostituées et ces prostituées de la ville qui sont mortes dans le tremblement de terre. L'idée, c'était d'essayer de comprendre comment se passe la journée d'une prostituée. Et qui sont ces femmes? Qui sont ces femmes? Des femmes de l'invisible, ces femmes qu'on ne voit pas, et ces femmes dont on ne veut pas parler, ces femmes que la société rejette, qui sont aussi des mères, des sœurs, qui sont nées dans cette société, dans ce pays, qui ont grandi dans cette société, dans ce pays, et qui ont mis au monde des enfants, et qui font tout, qui se sacrifient pour que ces enfants-là puissent vivre. Et moi, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère, c'était pas une prostituée, c'était une femme, et comme ça, qui est arrivée dans le monde et qui devait se battre pour grandir, pour avancer et pour me sauver la vie aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est le moment de partir des couches les plus défavorisées, les plus lointaines de la société, et histoire d'attirer l'attention. Parce que nous, les écrivains, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. On met la table et puis on invite les autres à discuter, à voir, à essayer de poser des questions avec moi et d'essayer de comprendre. Et donc, ce livre raconte cette histoire de femme. Mais justement, après le tremblement de terre, il n'y avait pas d'histoire. Hein. Là, je vous parle d'une société, d'un pays, d'une ville où, en une journée, se passent des milliers, des milliers, des milliers de choses. L'actualité haïtienne, c'est l'actualité nos limites, quoi. Et là, pour le coup, après cette catastrophe, il n'y avait plus rien. C'était un monde de silence, c'était des bribes de choses, des bribes de silence, des bribes de cris. Et tout le monde était comme saisi par cette catastrophe, par ce jamais vu, quoi. Et donc, du coup, le livre a épousé cette forme, la nouvelle forme de la ville qui était faite de tout ça, de non-dit, de presque rien, quoi, parce qu'on était complètement saisi, on n'était plus nous-mêmes. Et voilà ce livre et qui a connu pas mal de vies, qui a été repris à Paris en 2012 et chez Zulma, en poche chez Seuil Point en 2014, traduit en anglais dans une grande maison d'édition à New York et bientôt en tournée à travers l'Amérique entière. Bon, c'est la vie des livres. Ensuite, j'ai publié un autre livre qui s'appelle Les Latrines, Et dans ce livre, il s'agissait de mettre tous les bruits de la ville et dans un livre. Assez fou parce que j'ai grandi à Port-au-Prince, j'avais l'impression de connaître tous les bruits de cette ville, donc j'avais envie de les brocher. Voilà, les bruits, ça se broche aussi. J'avais envie de les faire brocher. Et voilà, c'est un livre qui raconte l'histoire de deux jeunes amoureux qui sont dans une sorte d'amour impossible, et ils se parlent et chacun raconte sa ville, sa vie, sa vision de la ville, sa vision de la vie, sa quête de sens, voilà, et ça fait un bordel pas possible. Et ensuite, 4 ans plus tard, j'ai publié un livre qui s'appelle L'ombre animale. L'ombre animale qui est pour le coup une sorte de roman fou. Et c'est un livre qui reprend la démarche que j'avais déjà commencée dans Les Latrines, c'est-à-dire laisser le personnage s'exprimer librement, sans virgule, sans point, sans rien, c'est-à-dire une autoroute de mots, sans essayer de cadrer, d'avoir un certain point de vue, une certaine réflexion sur ce qui est raconté, c'est-à-dire laisser vraiment la parole circuler à travers le livre, la parole du personnage. Et donc, dans L'ombre animale, j'ai essayé de pousser un peu plus loin cette démarche, et à partir d'une autre thématique qui est la mort. Et c'est l'histoire, enfin, c'est même pas l'histoire, hein, c'est une très vieille femme qui nous parle à nous, les vivants, depuis le lieu de la mort. Et elle remonte le fleuve de sa vie, et elle nous parle, elle nous parle, elle nous parle, elle nous parle, et on avale ces mots sur environ 400 pages. Et bref, ce livre, c'est une sorte de mise en espace des contraires. Des contraires, c'est un dialogue entre les contraires, entre la mort et la vie, entre le pays en dehors et la ville, entre la modernité et un monde pré-cartésien, un monde isolé. Dans le titre déjà, on sent ce dialogue, l'animal de la vie, l'ombre de la mort. Et donc tout le livre est construit justement sur cette dichotomie qui est la base même, le socle même de toute existence. Et que ce soit l'existence humaine, l'existence végétale, l'existence animale, on est tout le temps justement dans pas cette bataille, pas cette lutte, mais dans ce choc entre les contraires. Et après, j'ai publié Maître Minuit, qui est un autre roman qui raconte plus de 60 ans d'histoire d'Haïti. Dans ce roman, il s'agissait de dire à la jeunesse haïtienne, aux Haïtiens, à tout le monde, attention. Et voilà ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier. Et j'avais envie de leur dire que l'oubli est la pire des drogues. J'avais envie de leur dire que pour construire un pays, surtout un pays comme Haïti, il faut toujours se tourner vers l'histoire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, le pays qu'on est aujourd'hui, est une explication ou est une conséquence de l'histoire. De ce qu'on a vécu et des leçons qu'on a tirées de ce vécu et de ce qu'on veut en faire. Voilà. Et c'est l'histoire de Poto qui serait né dans les années 50 en Haïti. 7 ans plus tard, Duvalier est arrivé. Et ce jeune homme, cet enfant, va traverser trois décennies de dictature. Il est dessinateur, c'est sa passion, c'est son rêve. Il croit qu'il va devenir un grand, très grand dessinateur, et il y est arrivé. Et à travers ses dessins, justement, il nous donne à voir, à sentir, et tous les soubresauts de la dictature. Il nous plonge dans l'intimité même du dictateur, dans l'intimité de la dictature. Et ce livre raconte ça. Et ensuite, plusieurs fois, entre deux romans, j'ai mis un recueil de poèmes. Et mes deux derniers livres s'appellent Pur sang que j'ai ici, Pur sang, publié chez La Contralée, qui est mon éditeur de poésie en France, Pur sang, c'est pas un recueil de Pur sang, c'est pas un recueil de poèmes. C'est un poème qui fait environ 60 pages. Et j'avais envie d'explorer la thématique du sang, la notion de sang, la réalité, ce que c'est le sang, à travers mon histoire personnelle, à travers l'histoire humaine, à travers l'histoire de la religion, et le sang et qui symbolise la pureté, le sang qui symbolise le rouge, le sang qui symbolise le danger, l'interdiction ou l'interdit, et le sang des humains, le sang qu'on fait couler pour réaliser ses rêves personnels. Le sang est dans tous les sens, dans presque tous les sens du terme, parce que c'est une thématique assez vaste, et le sang aussi à travers l'histoire d'Haïti, à travers l'histoire de ma mère, à travers l'histoire de ma famille, à travers mon histoire personnelle et aussi dans mon rapport au réel, dans mon rapport et au sang, à travers l'histoire de la guerre et tout. Donc voilà, c'est un poème assez fou qui commence et qui est incapable de s'arrêter. J'ai dû mettre un point final parce que mon éditeur n'a pas arrêté de m'embêter. Et quand est-ce que tu vas terminer, mettre un point final à ce poème? Voilà. Mon dernier roman, publié chez Rivage, il est sorti le 3 mars dernier. C'est un roman qui est très important pour moi, enfin, comme tous les autres, mais celui-ci en particulier, parce que c'est un roman qui... j'ai envie de dire que c'est une remise en question de la figure de l'autorité, l'autorité religieuse, l'autorité spirituelle, l'autorité philosophique, l'autorité politique. Et c'est l'histoire d'un homme, tout simplement, qui a grandi dans un lacou en Haïti. C'est une communauté vaudou, avec des initiés, c'est-à-dire des vaudouisants, et un chef spirituel, le chef spirituel qu'on appelle l'empereur. C'est par lui et que les dieux s'adressent aux vivants, à nous, et il a droit de vie et de mort sur les initiés. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui dit comment on vit dans cette communauté, c'est lui qui dicte les lois et les éthiques de vie. Voilà. Et donc, il se trouve que cet empereur n'était pas un vrai empereur parce que c'est un monsieur qui n'est pas très commode. Alors, il est arrivé sur ce lopin de terre, il s'est érigé en empereur et il a écrasé tout le monde au nom de ses rêves personnels, au nom de ses propres croyances, mais pas au nom des croyances religieuses propres même et à la philosophie et du vaudou. Et donc quelques années et plus tard, un de ces moutons qui a grandi dans ce lacou, il est arrivé à Port-au-Prince, il est devenu livreur de journaux. Et il a décidé de dire à cet empereur toute la vérité et il lui parle. Il lui dit tout. Parce que d'habitude, c'est l'autorité, c'est le chef spirituel, c'est le Ougan, c'est le grand Manitou qui dit aux autres comment ils doivent se comporter. Et là, pour le coup, c'est le disciple, c'est le mouton qui dit au chef, voilà qui tu es. Tu n'es pas vraiment et la personne qu'on croit que tu es, et tu es un imposteur dans ce lacou. Tu as instauré la dictature, tu as instauré l'État, tu as instauré un régime totalitaire. Voilà. Il lui dit tout, et puis après, vers la fin, comme vous allez lire le livre, je vais pas tout dire, vers la fin, on va comprendre pas mal de choses. Par rapport à cette, à cette idée de pouvoir, pour pouvoir de, sous toutes ses formes. C'est un roman qui nous raconte une histoire de, d'insoumission, de soumission et d'insoumission, une histoire de rébellion, une histoire de moutonnerie, une histoire, de, une histoire d'une société, d'un pays, d'un monde qui, et qui est là, et on évolue dans ce monde, mais on n'a pas la capacité, on ne sait pas qui nous dirige. Où les gens qui nous dirigent, on ne les connaît pas. Et on n'ose pas s'adresser à ces gens-là parce que ce sont eux l'autorité, ce sont eux le pouvoir, et le pouvoir, l'autorité, ça fait peur. Mon personnage, il a cassé ça et il a cassé cette distance entre le plus fort et le plus faible, entre le dominant et le dominé. Et il nous a offert ce récit et qui est pour moi un récit salvateur pour moi et pour lui. Et voilà. Donc, ce soir, voilà, j'ai fait un petit rappel de ce que j'ai fait et de ma démarche d'auteur. Mais ce soir, je ne suis pas seul parce que je crois qu'on écrit parce qu'on a lu. On écrit parce qu'on a regardé, parce qu'on a observé et parce qu'on s'est intéressé au monde, au réel et puis au voyage. On a accepté de faire ce voyage dans tous les sens et pour justement revenir sur certains lieux, des lieux de mémoire, sur les lieux de l'enfance et aussi de rêver. Et donc, mes lectures m'ont permis de me construire et m'ont permis aussi d'accéder aux rêves, m'ont permis aussi de croire que et par la littérature, on peut inventer, réinventer le monde, on peut construire, déconstruire le monde, on peut faire plein de choses. Et ce que j'offre à mes lecteurs, c'est justement ça, cette possibilité d'accéder aux rêves, cette possibilité d'aborder et d'habiter la vie, le monde, autrement. Et j'ai pu avoir conscience de ça justement parce que j'ai lu, parce que je me suis intéressé à des auteurs comme Sonny Labotensi, grand auteur qui m'a dit à 15 ans qu'on est écrivain à condition d'être poète. C'est pas pour enfermer la poésie dans un recueil, mais justement pour dire et qu'on écrit parce qu'on est dans une quête de sens, parce qu'on est au service de la beauté et que cette beauté-là, elle est partout, même dans la boue, même sur les champs de bataille. Et c'est cette beauté-là, cette beauté est partout. Il suffit d'avoir conscience, justement conscience qu'elle est là et d'accepter d'aller vers elle. Et pour arriver vers elle, pour arriver à elle, on traverse justement des chantiers difficiles, épineux. Et moi, je pense que le travail de l'écrivain, c'est ça. C'est justement traverser ces endroits sombres pour arriver à la beauté. Donc, parmi les écrivains qui m'ont permis de comprendre ça, il y a le grand Aimé Césaire, puisque le thème de la soirée, c'est la littérature des îles. On va rester sur les îles. Nous sommes des insulaires ce soir, mais j'aurais pu partir très loin. Et voilà, on a Aimé Césaire qui est né à Basse-Pointe en 1913 et qui, on sait, nous a laissé des recueils de poèmes magnifiques, non seulement, mais une pensée magnifique, une pensée humaine. Une pensée qui nous appelle à nous rassembler. Et Cahier d'un retour au pays natal, Discours sur le colonialisme, la tragédie du roi Christophe, Moi la minère et tant d'autres livres extraordinaires. Et je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait de un petit poème de Césaire, pas trop long. Et c'est un poème qui sonne comme ça. J'habite J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté. Entre bulbes et cailloux, j'habite l'espace inexploité. J'habite du basalte, non une coulée, mais de la lave, le mascaret, qui remonte la caleuse à toute allure et brûle toutes les mosquées. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar, d'une version du paradis absurdement ratée. Aimé Césaire, la Martinique. Bon, et il y a eu Césaire, mais il y a eu tout à l'heure, j'ai parlé de Jean-Claude Charles, qui est un auteur haïtien magnifique, qui a théorisé justement l'enracinérance, qui est, selon lui, un voyage à travers le monde, mais à partir de son enfance. Là, je vous parle d'un grand voyageur, Jean-Claude Charles, qui a publié « Négociations » en 1972 et chez Lamartine, qui nous a laissé des romans comme « Manhattan Blues », « Ferdinand, je suis à Paris », »,« De si jolies petites plages », qui est un reportage magnifique sur la question des « boat people » en Haïti, en tout cas dans la Caraïbe, et le grand écrivain qui a traversé les États-Unis et qui nous a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Basket ». C'est le grand écrivain qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Corps Noir. Le Corps Noir, qui est un livre sur justement la communauté noire aux États-Unis et les conditions dans lesquelles cette communauté évolue et toutes les péripéties que ces gens ont connues et connaissent encore. On connaît la réalité, on suit l'actualité. Et bien avant Ta-Nehisi Coates, hein, qui a écrit « Between the World and Me », qui est un autre livre sur le corps noir, et dans lequel ce monsieur Ta-Nehisi Coates, qui est un écrivain américain, écrit une lettre à son fils et pour lui parler de son enfance à Baltimore. Des livres très, très poignants. Et je vais peut-être vous lire... Je vais vous lire un extrait de Jean-Claude Charles qui est justement dans la même, dans cette quête aussi, la même quête qu'Aimé Césaire. Et qui je suis? Je suis un homme noir. Je viens de cette histoire-là, mais qui vraiment je suis? Voilà. Jean-Claude Charles nous dit. Un tout petit extrait pour que vous puissiez entendre sa voix. Jean-Claude Charles dit dans cet extrait, « Je suis un homme sans légende. Voici ma fortune. Mes yeux, ma bouche et mes oreilles dans leur boîte d'or. Je le fixe à ma tête chaque matin. Je les enlève avant de dormir. Mystère de la perte des sens. » Jean-Claude Charles, Haïti. Voilà, et après Jean-Claude Charles, et j'ai aussi pas mal lu Glissant, qui est le théoricien, le grand théoricien qu'on connaît, le grand romancier, pris Renaudot pour son roman La Lézarde, qui justement raconte une autre histoire de rébellion, d'insoumission. Et Glissant, il est né à Sainte-Marie, à la Martinique, en 1928. C'est un monsieur qui nous a laissé pas mal de livres, notamment et Poétique de la relation, Soleil de la conscience, L'intention poétique, La lézarde, et puis des essais aussi avec Chamoiseau, Confiant, et ce fameux livre. Et qui s'appelle L'éloge de la créolité. Alors, je vous dis tout de suite, puisqu'on est sur les îles, ce que c'est que la créolité. La créolité, c'est cet accès, et chez Justin Lévisson, pour que vous puissiez saisir le propos, il y a un écrivain haïtien qui s'appelle Justin Lévisson, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « La famille des petites cailles ». La famille des petites cailles, ça veut dire la famille des enfants de la maison. Et c'est un livre qui est écrit dans un français haïtien. Quand on entend, quand on lit le livre, on voit bien que c'est un livre qui est écrit en français. Et quand on entend aussi et ces mots, ces phrases, et on se rend compte, en fait, non, ce livre est écrit en français, mais l'esprit, le ronf, on dit ronf en Haïti, le souffle du livre, c'est un souffle créole. Et c'est un souffle créole, c'est comme, comment dire, c'est un créole écrit dans un français et sans faille. Et donc, du coup, Glissant et Chamoiseau et Confiant, ils ont théorisé cette démarche qui est devenue tout un mouvement et littéraire et dans les années 80 et aux Antilles. Et on retrouve aussi cette démarche et qui est une démarche assez forte chez Franck Étienne. Et ils ont rendu hommage dans cet essai à Franck Étienne qui a aussi beaucoup et travaillé sur cet entre-deux justement des deux langues, c'est-à-dire ce corps à corps, cette rencontre, ce confluent qui existe en Haïti et dans les Antilles, entre le créole et le français. L'apport du créole à la langue française et l'apport de la langue française au créole. Donc, Glissant est une voix importante et à travers laquelle on peut justement saisir les méandres de cet univers. Alors, je vais vous lire un extrait, pas un extrait en créole, un extrait en français d'Edouard Glissant, et ça sonne comme ça. Le vent, le froid, les drapeaux, la nuit, le froid, les balles, les drapeaux, la suie. Rachat rapide entre les cris. On attend cette nuit dans les cours et les airs la mort de la menace et la venue des fruits. Tu sais, ceux qui chantaient quand la ville brûlait, ceux qui mangeaient de l'herbe au rebord des fossés, ceux qui tombaient en tas en marchant vers les balles. La fatigue est venue aux paupières des femmes, elles n'accoucheront avant la mort de l'aube. Que si le puits s'emplit des sueurs de l'étable, que si ta main presse ma hanche, mais dans la nuit, la marche interminable au bûcher. Édouard Glissant, La Martinique. Alors, j'ai envie de vous parler d'un autre auteur. Ils étaient plusieurs, hein, mais c'est un auteur qui fait partie d'un mouvement, d'un courant littéraire en Haïti et dans les années 20-30 et qui s'appelle l'École indigéniste. L'École indigéniste, c'est dans le but de résister à l'impérialisme politique et culturel et de l'occupant et étoilé, l'occupant des Américains. Et c'est un mouvement qui est né par la voix de son initiateur Jean-Prince Mars et qui invite justement les écrivains à cesser d'être des pasticheurs pour devenir des créateurs. Et en clair, et c'était très important pour Jean-Prince Mars que ces écrivains-là puisent aux racines africaines de l'homme Haïti. Car, selon lui, la résistance ne saurait trouver son expression que dans la culture orale issue de l'esclavage, les contes, les traditions et les légendes. Et par ce mouvement, c'était le grand retour à la mère patrie, le grand retour à l'Afrique pour dire aux Américains, nous ne voulons pas être ce que nous voulons faire de nous. Nous sommes des Africains arrivés sur ce bout de terre à partir du 16e siècle, 17e siècle, on est arrivé là, nous sommes des Africains, on ne veut pas de cette vie, de ce monde que vous voulez nous offrir. Et des artistes, des chanteurs, des essayistes, des écrivains, des romanciers, des poètes ont chanté la mère patrie justement pour parler, opérer, faire justement ce grand retour à l'Afrique, à la mère patrie. Je vais vous lire, c'était si vous voulez, notre Harlem Renaissance à nous. Je vais vous lire un petit extrait d'un poète de cette mouvance. Et ce poème dit « Ce cœur obsédant qui ne correspond pas avec mon langage et mes coutumes et sur lequel mordent comme un crampon des sentiments d'emprunt et des coutumes d'Europe, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal, ce désir sauvage, certains jours de mêler du sang et des blessures aux gestes contractés de l'amour et de percevoir sous les morsures qui perpétuent le goût des baisers, les sanglots de la menthe et ses râles, ah, vieux instincts inapprivoisés de quelques ancêtres cannibales. Sous le ciel, le tambour conique se lamente, et c'est la même du noir, spasme lourd d'homme en rute, gluant sanglots d'amante, outrageant le calme du soir. Des quinquets sont fixés au coin de la tonnelle, comme des astres avilis. L'ombre sue un parfum de citronnelle séché à la cajou des lits. Et moment par moment, du amphore tutélaire, parmi des guirlandes dansant, les bêlements du bouc qui, dans la brise, flaire l'odeur prochaine de son sang. » Voilà Léon Lalo, Haïti, qui faisait partie de cette mouvance, de ce mouvement de l'école indigéniste. Et puis on a, avant de vous passer la parole, le grand poète haïtien Georges Castrat, qui nous a laissé des recueils magnifiques. Et je vais lire cet extrait en pensant aujourd'hui à cette société, ce peuple, à cette jeunesse qui n'en peut plus, et d'un régime totalitaire soutenu par la communauté internationale, cette jeunesse qui se fait kidnapper, qui se fait violer, ces mères qui pleurent sur le cadavre de leurs enfants, dans la ville, partout, ces quartiers transformés en repères de bandits armés, et ce pays qui n'en peut plus, et parce qu'on n'a pas envie de, on n'a pas envie de le laisser tranquille, et on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est un pays qui se bat. Et Georges Castrat, qui nous a écrit les 5 lettres, comme pour nous dire attention, et l'ami, et il faut rester debout. Et ce poème qui dit « Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue, dire est déjà trop dire, le bonheur sous chloroforme. Qui habitera avec nous cet espace mensonger ? L'incertitude de ce pays affole, à force de faire des promesses à des bonheurs sans complice, à des rêves de plein jour et de plein pied. Déjà l'ellipse, ma main coupée en deux, il faut trancher. Je suis un homme qui, du rebord piégé de la lune et du rebond de la lettre et du piège de l'esprit, appelle la folie devant la mer en ruine. Et puisqu'il te faut un récit court, celui des fous derrière la porte, des lapsus ou des masques allumés, qui font un bruit de poulie dans les eaux. Je t'écris pour t'apprendre que j'ai longtemps parlé avec les poings serrés, pour ne pas crier avec l'horizon qui fait naufrage. Ma lettre portée par ellipse est demandée aux mots toute voile fermée de prendre le poids de l'oiseau en plein vol, de rendre rapport d'écriture et de déraison de mélodie d'extravagance. Même en me trompant de parcours, mêlant la longue syncope des arcs-en-ciel aux phrases séquestrées des réverbères, je n'ai toujours eu qu'un seul galop, la phrase mutilée, l'ordre des vertébrés. Celui qui crie trop fort n'entend pas l'orage déchiré de ta bouche, dans ma vie qui se défait et se refait comme une chevelure. Celui qui ne crie pas assez n'entend pas la voix du silence, c'est à mourir de rire. Les hommes n'ont plus de couilles, mais des légendes, des blessures miaulantes. J'ai remis, vois-tu, mon vêtement de marginalité. Je vais encore dans le sens des miroirs, le pays que j'habite, le temps que j'habite n'a pas de porte. Georges Castra. Et pour finir, j'aime bien partager les textes des autres, textes qui m'ont marqué, que j'ai aimé, qui me permettent de respirer encore aujourd'hui. Voilà, je vais vous lire avant de vous passer la parole. Je vais arrêter de vous embêter avec mes migraines. je vais vous passer la parole. Mais avant de passer la parole, je vais vous lire un petit extrait du Pur Sang, qui est un poème assez... Vous me direz ce que vous en pensez. Pur sang. Entré dans sa clarté nouvelle, le sang chemine simiesque, vers de purs sommets, les cœurs creux qu'on dépouille quand même, force à enchir dans la pierraille, fosse de sous-traitance, cheminot cirant les rails de ses dents. Poignard fou, dites-vous des mots, pourtant sans borne, ni état d'âme s'étend leur crinière funèbre. Néant, cette cruche renversée, ici, il met une bonne douche de vous, cafard en trois pièces, et les autres qu'on aura mis en pièces à cause de vous, vos nuits, dont vous êtes si ravis. Pourri jusqu'à la moelle du hasard, tout attrusté, quitte à border le vent, l'immense, et là il met mon ventre, sa résilience fleuve. Arrache ma tête, dégage-la cet orage. Où vois-tu une pincée d'homme que la terre reprend pour réécrire son sang, son souffle, une page débordée d'elle-même, quête de l'origine du temps, et l'autre locataire des airs vertement pourpres, rêveur comme une porte latente, courant flexieux, tel barque happé par un revirement de mer, appartenant et étranger à mille vies à la fois. Voilà, je vais vous lire un autre extrait. Et ça dit quoi? Ça dit, écoutez l'ombre se répéter, la vie revenir sur ses pas. Dans la nuit basse, accroupie sur le trône, mère, la romance. Je bois avidement ses miroirs, les replis de sa marche. Mère est temps de voyage, lieu où elle revient à ses heures marécageuses qui lui arrivent jusqu'aux yeux. Mère naufragée, les complaintes de mon sang se lèvent à l'aube, requiem brouillant le cœur, ta vue toujours plus éloignée. Elle n'appartient à rien qui soit de l'ordre d'une quête, puisse finir, juste vie à l'écart, jusqu'à se dépouiller de ses vertiges. Le rêve pleure, pleurer devant son corps, dont émane une fois d'aura, une déchirure sa voix, sur fond de nuit que devient le vent, vague à l'agonie, champs essoufflés, tes cheveux perdent dans leur nuit, leur fleuve, puis dans toutes les apparences des choses, mer en cavale dans mon sang, regard allé vers quoi encore, d'où ne vient qu'un néant, à remplir d'illusions de secours, le rêve est une condition de l'avenir. Et je vais vous lire un autre extrait. Un autre extrait qui dit, par exemple, personne avant mère n'a osé percer un trou dans le ciel, y appliquer les sensus de l'âme et le désemplir de son infinitude. Pattes cassées de l'affreux chien, s'amenant en catastrophe, la gueule dégoulinante d'épreuves, le dos lisse un dôme, ses plaies suintant d'humeur, une goutte d'âme qu'un camion l'écrase pour l'apaiser. Mais tous l'évitent, sa mort le collerait éternellement, abattu ses pensées sont un chemin caillou. Drôle de chemin que celui qui prolonge les détours annule les croisées. Chaque pas lui vaut une fin du monde, mais poursuit son vacillement, lourdement chargé de sa mort lente. Pourtant, légion sont ces chiens mignons, poilus, pleins de santé, qui se font tristement sortir les boyaux sans le vouloir, pour rien. Étrange lointain les yeux du chien, cœur d'une foule, ne battant plus pour les choses réelles. Pourquoi la mort méprise-t-elle les loques, les condamnés? Se demande le chien. Il faut en finir avec cette bête des années 80, la virer une bonne fois de ce monde propre et sain que Dieu conçoit pour ses pieux enfants. Seigneur, aie pitié, ordonne à la mort ton enfant soldat, qu'aussi déchu que soit ce lieu et aussi ignoble que soit cette bête, il y a une victoire à gagner, de la soie pour sa grâce. Là-bas, cette bande de vieux gamins, peut-être va-t-elle finir par pointer. Ou faut-il que le sale chien des années 80 aille lui-même les trouver, se fasse coincer, massacrer et jeter dans un égout. Cafard, amateur du crime, génie du mal, tueur de chiens, conduisez-les jusqu'à moi. Je vous connais, je vous vois. De toute façon, je ne vous ai jamais aimé. Allez, maniez-vous. Si vous pouviez vous rendre compte de l'occasion unique que vous avez de pouvoir vous débarrasser de cette erreur des années 80, vous ne tarderiez pas autant. Vous feriez mieux que ça. Et sachez que de la part de cette tâche, il n'y aura de résistance aucune. Elle sera toute à vous. Elle ne vous suppliera pas. Pitié. Foutez-lui un, non, deux, pour être sûr. Méchant parpaing sur le museau. Ensuite, savourez grandiosement votre victoire. Sortez tambour et vaccine. Bonjour, Rara. Aura, hip, hip. Aura, hip, hip. Seulement une pauvre âme inutile qui ne manquera à personne. Maudit soyez-vous qui passez votre chemin sans une once de haine à l'égard d'un animal qui s'est bêtement trompé de vie. Voilà, et je vous ai tout dit, je vous ai tout donné.
Cette semaine, à Neuchâtel, justement, une conférence sur le français des îles, et qui faisait que j'ai beaucoup aimé cette personne qui nous a dit que le français était juste enrichi par toutes ces... Tous ces voyages qu'a fait le français, que ce que nous on appelle des archaïsmes sont restés dans d'autres, justement souvent dans les îles parce qu'elles sont loin de tout, et puis qui nous a dit que toutes ces îles avaient inventé justement de nouveaux mots et les avaient enrichi le français. Et j'aurais aimé savoir, j'ai énormément aimé Édouard Glissant, merci beaucoup pour ces lectures extraordinaires. Et j'aimerais que tu nous dises quand même ce souffle créole, cette particularité que vous avez dans votre français, qu'on aimerait tellement partager parce que c'est aussi le nôtre dans un sens. Et si tu pouvais nous dire quelque chose par rapport à ça.
Bon, après la langue, il faut être clair là-dessus. C'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de figé. Et une langue, c'est ça, et c'est fini. Non, il n'y a pas de langue pure. Il n'y a pas de langue pure. Le français n'est pas pur, l'anglais n'est pas pur. C'est-à-dire, c'est une langue, c'est la rencontre aussi de plein d'imaginaires, de plein d'autres langues et le français vient de quelque part, le créole vient de quelque part. C'est, on est ici, par exemple, en France, on dit qu'on est dans un univers latin, c'est-à-dire c'est un univers latin qui a hérité de pas mal, qui a bénéficié de pas mal de passages. Le monde a toujours bougé, l'humanité a toujours bougé, et à travers ces mouvements, il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres qui se font. Et à travers ces rencontres, la langue aussi puise son souffle. Et après, on a l'activité littéraire qui permet à la langue d'accéder à un certain accomplissement, à un certain enrichissement. Mais la langue, elle vit, elle existe, elle est là parce que justement, on la parle. Et il n'y a pas 10 000 moyens de tuer une langue que de disperser toutes les personnes qui parlent cette langue. C'est-à-dire, ce soir, je ne sais pas combien on est en ligne, on a tous cette langue, le français, en commun. Si, et par je ne sais quelle politique ou je ne sais quelle discrimination linguistique, on décide de nous disperser et on envoie Lucienne en Chine, on envoie Jacqueline au Japon, on envoie Denis quelque part dans un pays où on parle une autre langue, et moi, on m'envoie dans un autre pays où le français n'existe pas, eh bien, on ne va plus pouvoir, entre nous, parler cette langue, et elle est condamnée, elle sera condamnée à mourir. Aussi simple que ça. Et le français est toujours une langue vivante, une langue puissante parce qu'il y a des gens dans le monde qui la parlent et il y a des gens dans le monde qui écrivent dans cette langue, qui pensent dans cette langue, qui publient et dans cette langue. Aussi simple que ça. Et après, en Haïti, bon, on connaît l'histoire. On a eu la colonisation, pas mal de passages. Les Espagnols sont venus, les Français sont venus, les Portugais sont venus, les Américains sont venus. Et puis, le créole qui est, si on veut, issu de langues africaines et du français. Moi, par exemple, j'étais au Mali, dans le Bambara, j'entends des sons, des mots qui existent. Et en créole, au Congo-Brazzaville, je suis allé, j'ai entendu des mots et qui existent dans notre créole. Je suis allé au Rwanda, pareil. J'ai vécu à Montréal. Il y a des mots carrément qui existent et qui ont la même signification, la même connotation dans le parler québécois et qu'on retrouve dans le créole haïtien. Et donc, voilà. Et nous, on a gardé toutes ces expressions et tous ces mots et qui sont utilisés, qui sont à la fois, qui appartiennent à la fois au langage parlé, à la parole parlée et à la parole écrite. Donc, et ce qui vient justement enrichir le français et dans lequel on écrit. Et c'est ce que Jacques Séphane Alexis, par exemple, appelle le réalisme merveilleux. C'est un récit, c'est un univers qui charrie tout ce qu'un peuple possède. En tant qu'imaginaire, en tant que merveilleux, nous, dans la littérature caribéenne, latino-américaine, on fait avec tout ce qu'on a et on met tout à contribution et on utilise tout dans notre travail. Le récit, c'est vraiment une sorte de chaudron et dans lequel il y a plein d'univers, plein de langues qui se côtoient et qui sont ensemble. Et je pense que c'est une littérature qui est forte pour ça. Quand on lit Georges Amado, par exemple, on peut prendre Baïa de Tolessin. Baïa de Tolessin, si on prend la traduction, on enlève le nom de l'auteur, ça aurait pu être écrit par un haïtien. L'univers de ses enfants dans la rue, les chants vaudous, et c'est un récit qui est ponctué par des chants vaudous. Si on prend Aléo Carpentier, qui est le porte-flambeau de ce réalisme merveilleux. Si on prend, Vargas Llosa, qui a écrit La fête au bout, tous ces écrivains-là se sont intéressés à l'histoire de ce coin qu'on appelle la Caraïbe, et tous les souffles spirituels, imaginaires, linguistiques de ce bout de terre traversent leur œuvre. Et je pense que la langue a beaucoup à gagner à travers ces démarches-là. Et donc, du coup, c'est vrai, par exemple, en Haïti, on a une sorte de bilinguisme assez bizarre. Et le français a tendance à écraser le créole pour plein de raisons, parce que c'est la langue du colon. Et c'est la langue de l'intelligence. Ce n'est pas vrai, hein. C'est les gens qui pensent cela à l'intelligence, parce que l'intelligence n'existe pas. L'intelligence est tout simplement une sorte de truc chelou pour dire que nous, on sait, vous ne savez rien. Donc, laissez-vous aider, on va vous conduire, on va vous dire les choses, on va vous dire comment ça se passe. Mais c'est faux. Je pense qu'un pays, qui se respecte, un pays qui veut se construire, un pays qui veut déconstruire des choses, c'est un pays qui se parle, c'est une société qui cause avec elle-même, c'est un pays où plus ou moins les gens, ils se comprennent. Et souvent, on voit que ce que j'ai écrit d'ailleurs dans l'empereur, celui qui parle créole, aucune forme d'intelligence peut lui être attribuée, et celui qui parle français, même si c'est un faux français, un français bizarre, un faux français, et il se croit intelligent parce que tout simplement, ils parlent français. On a un peu ça aussi, sous une autre forme au Québec, et par rapport à cette bataille qui existe entre le monde francophone québécois et le monde et de l'anglais. Ça, c'est plus politique, c'est des gros moyens, et voilà. Mais en Haïti, c'est vraiment une question de je sais, je sais pas. Je maîtrise, tu ne maîtrises pas. Et puis, il y a tout ce truc qui existe aussi dans la société, et tous ces préjugés, les stéréotypes et linguistiques. Mais pour répondre à la question, mais c'est justement ça. C'est d'abord une littérature avant tout ça. Hein. C'était une littérature, je n'ai pas envie de dire littérature, mais une culture orale. C'est-à-dire, c'est un pays où les ancêtres, les grands-parents ont raconté des contes, des histoires aux enfants, qui ont raconté des contes, des histoires à leurs enfants, ainsi de suite. Et donc, du coup, on a une culture de la parole parlée, une culture de l'oralité. Et en Haïti, quelqu'un ne va pas vous appeler au téléphone hein, pour vous raconter quelque chose. Maintenant, c'est, bon, crise sanitaire et d'autres actualités, ça se fait, mais moi, je suis en Haïti, je vais pas appeler un ami ou une amie pour lui raconter quelque chose. Je vais aller voir cette personne. C'est-à-dire, on a encore ça. Mais sûr de raconter quelque chose, de forger l'écoute et d'accepter aussi qu'on nous raconte des histoires et d'être dans l'écoute. Donc, je pense que tout ça enrichit la langue, enrichit le créole, enrichit le français. Et comme on a plus ou moins dans la littérature haïtienne ce bouche-à-bouche entre le créole et le français, ce bouche-à-bouche entre l'histoire et la littérature. Donc, voilà quoi.
Les jeunes, maintenant, ils ont leur langage à eux. Enfin, ici, on le voit, en tout cas. Mm-hmm. En Haïti, ça se remarque aussi. Est-ce qu'il y a aussi toutes ces influences américaines qui fait qu'on va préférer parler un espèce de mélange avec de l'anglais dedans plutôt que comment être fidèle au créole ou au français?
Oui, en Haïti, c'est moins flagrant, je trouve. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier hein, que les États-Unis ont occupé Haïti de 1914 à 1935 et aussi, c'est un pays qui a soutenu, entre autres, hein, pas mal de régimes totalitaires en Haïti, commençant par Duvalier, en passant par d'autres, et aujourd'hui encore. Hein, c'est un pays très influent, mais on va dire plus politiquement. Moi, j'ai jamais vu deux Haïtiens dans la rue ou ailleurs en Haïti et parler en anglais. Et sinon, c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis et qui se retrouvent là et qui parlent anglais. C'est-à-dire, et en dépit de tout, il y a encore cet attachement à la langue créole. Moi, quand je vais aux États-Unis, les Haïtiens aux États-Unis ou au Canada, les Haïtiens entre eux, ils parlent créole. Et je pense que pour eux, c'est une forme, c'est un espace intime. C'est une forme d'intimité et ils ont l'impression qu'ils sont entre eux et qu'ils sont inatteignables et qu'ils peuvent se dire pas mal de choses parce qu'il y a des codes, il y a une façon de parler, il y a des choses. Et donc, du coup, ouais, les Haïtiens au Canada et aux États-Unis, ils parlent encore créole. Quand ils vont en Haïti, ils sont très fidèles. Et ils sont très fidèles au créole et il y a une semaine ou deux, je suis tombé sur un taxi parisien et qui m'a parlé en créole. Et quand je lui ai dit que j'étais haïtien, il était trop content. Et il m'a dit, mais pourquoi on parle français? Pourquoi on parle français depuis tout à l'heure lorsque vous êtes haïtien? Donc, on a continué la conversation en créole et il était très content. Pour lui, c'était comme une sorte de bouffée d'air. Hein. Ça lui a fait sa journée, le fait de tomber sur un haïtien, de pouvoir parler créole. Et donc, je pense qu'il y a ça, cette appartenance, ce sentiment d'appartenance au créole, chez l'être haïtien, et qui, même le français hein, en Haïti, quand on parle français, moi, j'ai jamais entendu deux Haïtiens, surtout dans les quartiers populaires ou je sais pas, ou dans les quartiers plus huppés, on va dire, j'ai jamais entendu deux Haïtiens parler français. C'est un pays essentiellement créolophone et voilà. Donc, je pense que c'est moins flagrant en Haïti, l'influence de l'anglais. Alors, l'haïtien depuis, je n'ai pas envie de dire depuis toujours, depuis les années 70, 80, quand la dictature du Valéry commençait vraiment à être très dure et très féroce, les Haïtiens sont partis, des intellectuels, ils ne sont pas partis qu'aux États-Unis, qu'au Canada, ils sont partis aussi au Congo, ils sont partis ailleurs, ils sont partis au Togo, ils sont partis en Afrique, surtout le continent n'est pas appelé sur le continent africain. Ils sont allés enseigner le français, les maths, ils ont fondé l'université UQAM à Montréal. Donc, mais malgré tout, le créole est toujours présent.
Merci, mais en tout cas, merci à vous tous. Merci Lucienne encore une fois pour cette organisation. Moi, je vais aussi vous laisser là tantôt. Et au plaisir, hein, mercredi, lundi prochain, comme je le disais, il y a encore 3 conférences. À très bientôt.